Les courses de chars. Beaucoup de jeux sur le cirque et les courses de chars à Rome prennent comme modèle la course de chars du film Ben-Hur, 1959. Plusieurs détails de cette course de chars impressionnante ne correspondent cependant pas à la réalité historique. L'organisation d'une course de chars était très coûteuse. L'organisateur était souvent un sénateur romain qui se devait d'offrir des jeux quand il devenait préteur ou consul. Il s'agissait de réunir les quatre écuries d'une course, les verts, les rouges, les blancs et les bleus, qui mettaient à disposition les chevaux, les chars et les auriges. Sans eux, aucune course ne pouvait avoir lieu. Le jour de la course s'ouvrait avec un long et somptueux défilé auquel participaient des chœurs, des prêtres, des dignitaires et bien sûr les auriges, sans oublier les dieux, car les courses de chars étaient dédiées au dieu soleil. La spina, une sorte de barrière divisant la piste en deux, était ornée de toutes sortes de monuments. Les courses se déroulaient avec des chars tirés par deux, trois ou quatre chevaux. Des équipages ont même compris 6, 8 ou 10 chevaux. Le placement sur la ligne de départ était tiré au sort. Une course se composait de 7 tours. Dans le cirque Maxime à Rome, cela correspond à une distance de 4 km. Une course de chars durait ainsi moins de 10 minutes. Sous les applaudissements frénétiques du public et des supporters de l'une ou de l'autre des équipes, les chars pouvaient atteindre une vitesse de 70 km/h sur une surface de sable. Une course n'était donc pas sans danger. Des accidents spectaculaires pouvaient se produire après le départ, au moment de l'accélération des chevaux et dans les virages. Les chars pouvaient se renverser, les chevaux trébucher et se briser les jambes, les conducteurs tomber et être traînés par leurs propres chevaux. Scorpus, l'aurige le plus célèbre de l'époque flavienne, serait mort à l'âge de 27 ans, après 2048 victoires. Le poète Martial a composé une épitaphe en son honneur. « Je suis l'illustre Scorpus, la gloire du cirque tumultueux, l'objet de tes applaudissements, Rome, et de tes brèves délices. L'envieuse Lachésis m'a rappelé après 9 fois 3 années. En comptant mes palmes, elle m'a pris pour un vieillard. » Les pilotes couraient en moyenne 3 à 4 fois par jour, car les jeux du cirque ne pouvaient avoir lieu que 64 jours par an à Rome. À l'époque républicaine, près de 12 courses se déroulaient quotidiennement. Sous l'Empire, ce nombre s'est élevé à 22. Une journée de course nécessitait donc 700 à 800 chevaux. Les chevaux de course étaient élevés avec le plus grand soin. Les meilleurs venaient d'Espagne ou de l'Afrique du Nord. Beaucoup de chevaux étaient célèbres et portaient des noms connus du public. Ils sont même représentés sur des mosaïques. Certains chevaux auraient gagné plus de 100 courses. L'aurige portait un vêtement de protection spéciale. Il était équipé d'un casque en cuir ou feutre, pileus, d'une ceinture autour du torse ainsi que de lanières en cuir ou en toile sur les jambes, fascia. Il avait aussi un fouet, flagellum, et un couteau afin de couper les rênes en cas d'urgence. Cependant, la plupart des illustrateurs de jeux représentent les auriges équipés comme des légionnaires. Les auriges étaient employés par l'une des écuries de course, factiones. Au cours de leur carrière, ils pouvaient changer d'écurie. La plupart étaient des hommes libres, issus des couches inférieures de la société, d'autres des affranchis ou des esclaves qui furent souvent récompensés par la liberté. De célèbres conducteurs de chars se vantaient d'avoir remporté plus de 1000 victoires. Gaius Apuleius Dioclès, originaire du Portugal actuel, eut une carrière particulièrement brillante. Il courut, sous contrat, pendant 24 ans, successivement dans les écuries des Blancs, des verts et des rouges. Il se retira à l'âge de 42 ans après 4257 courses et 1462 victoires. Selon son inscription honorifique, 146 après Jésus-Christ, il aurait gagné plus de 35 millions de sesterces, l'équivalent d'environ 13,7 milliards de francs suisses, en revenus jamais égalés, pas même par les sportifs les mieux rémunérés de l'histoire du sport, comme Tiger Woods ou Michael Schumacher. Les gladiateurs. Les combats de gladiateurs ont une longue tradition à Rome. À l'origine, des duels se déroulaient en l'honneur d'un défunt au moment des funérailles. Dès la fin de la République, au 1er siècle avant Jésus-Christ, de nombreux combats publics furent organisés pendant les jours fériés sans rapport avec des funérailles. L'arène ovale de l'amphithéâtre fut alors spécialement conçue pour ces spectacles. La représentation de la gladiature dans les jeux modernes se base davantage sur des reconstitutions erronées, comme le film Gladiator, 2000, que sur la réalité archéologique. Supervisé par deux arbitres, un combat de gladiateurs était régi par des règles strictes. Les couples étaient formés selon le type d'armement. Le rétriarus combattait avec un filet, un trident et un poignard. Il portait une protection sur l'épaule gauche, galérus, ainsi qu'une brassière sur le bras gauche, manica. Le sécutor était le principal adversaire du rétière. Il portait un casque en forme d'œuf muni de petits trous pour les yeux, une épée courte, gladius, et un grand bouclier, scutum. Le murmillo se battait généralement contre le traex. Comme un légionnaire romain, le murmillo portait un casque à visière, une épée courte et un grand bouclier rectangulaire incurvé. Cependant, il avait des protections, une brassière, manica, au bras droit et une jambière sur la jambe gauche. L'armement de son adversaire devait faire référence à son origine thrace. D'un casque à visière, une épée à lame courbe, sica, un petit bouclier rectangulaire incurvé, parmoula. Son bras droit était protégé par une brassière, manica, et ses deux jambes par des jambières. Il existait d'autres types de gladiateurs comme le provocator, l'oplomaque et l'équesse. Les illustrations des jeux modernes représentent le plus souvent les gladiateurs comme des légionnaires, comme Maximus dans le film Gladiator, ou vêtus d'une armure de fantaisie. La plupart des gladiateurs étaient des esclaves, des prisonniers de guerre, des criminels condamnés ad ludum, mais aussi des hommes libres, volontaires. Ils étaient formés, entraînés et soignés dans des écoles appartenant à des privés ou à l'empereur. La mort d'un gladiateur était rare dans les combats appelés munera. Les propriétaires investissaient beaucoup d'argent dans les gladiateurs. Pour un gladiateur mort, l'organisateur devait débourser 20 fois le montant de sa location. Les gladiateurs étaient bien protégés et les combats se terminaient souvent par l'abandon de l'un ou deux en raison d'une blessure ou de l'épuisement. L'organisateur décidait, souvent sous la pression du public, si le perdant devait être achevé ou non. Pour les Romains, il était important que le vaincu accepte de recevoir le coup de grâce, de bon gré et avec sérénité. Beaucoup de gladiateurs furent adulés par les femmes, même si c'était socialement réprouvé. Plusieurs épitaphes de gladiateurs sont conservées, ils brandissent fièrement leurs armes, se vantent de leur victoire. Certains gladiateurs étaient même mariés et avaient des enfants. Victor Joseph Étienne de Jouy, 1764-1846. Né à Versailles le 19 octobre 1764, Étienne de Jouy est un homme polyvalent. Il est surtout connu comme dramaturge, journaliste et auteur de plusieurs opéras très importants du début du XIXe siècle. Ses livrets, tels que Guillaume Tell ou La Vestale, seront mis en musique par des grands compositeurs comme Rossini et Spontini. Les aventures vécues lui servent d'inspiration. Tout au long de sa vie, il endossera plusieurs fonctions. Sous la Révolution française, il s'engage dans une carrière militaire. Il sera arrêté et condamné à mort sous la Terreur. Il s'évade et se réfugie en Suisse pour ensuite revenir en France après la chute de Robespierre. En janvier 1815, il devient membre de l'Académie française et de la Commission du Dictionnaire. Lorsqu'il compose les 14 étuis du jeu de cartes instructive en 1804, il s'inscrit dans la mouvance didactique initiée par le siècle des Lumières qui encourage l'éducation de l'enfant par le jeu. Pourtant le jeu, surtout de hasard, possède jusqu'alors une mauvaise réputation. Il va à l'encontre des valeurs bourgeoises prônant le travail, l'assiduité et la productivité. Grâce à ces jeux de cartes insistant sur les valeurs morales et patriotiques, l'enfant apprend tout en s'amusant à développer son habileté, le fair play et à respecter les règles établies. Et en plus, il acquiert des connaissances en histoire et en géographie.